Chapitre 2. Une heure après cette rencontre, Georges et Valentin étaient assis en face l'un de l'autre devant une cheminée où flambait un grand feu de souches et de fagots. La pièce dans laquelle ils se trouvaient était vaste, haute, et éclairée par 7 fenêtres qui ouvraient sur le midi, le levant et le couchant. Les murs en étaient garnis de casiers remplis de livres presque jusqu'au plafond. Un panneau était réservé aux fusils et aux divers ustensiles de chasse, tels que carnassières, sacs à plomb et poires à poudre. Dans un coin à droite, on voyait tous les engins de pêche. L'angle voisin à gauche, entre deux fenêtres, était occupé par un établi de menuisiers chargés d'outils. Au milieu même de la pièce s'allongeait une table ovale, couverte d'un tapis de drap vert, et tout obstrué de journaux, de revues, de brochures et de dictionnaires, amoncelés autour de deux mappemondes entre lesquels on avait placé des plumes, des crayons et des encriers. Une grande lampe, suspendue au plafond et couverte d'un immense abat-jour de tôle, éclairait la table. Quelques peaux de renard dentelées de drap rouge étaient dispersées çà et là sur le parquet. Des oiseaux de proie empaillés étendaient leurs ailes au-dessus des casiers, et sur la cheminée, une magnifique pendule, représentant un char d'Apollon d'un beau modèle, sonnait les heures avec majesté. Cette pendule, avec son quadrille de chevaux dorés, était comme un souvenir de Versailles perdu à la campagne. Quelques armes, telles que yatagans, sabres et pistolets, brillaient dans les intervalles ménagés entre les corps de bibliothèque. Ajoutez à cette réunion d'objets de toutes sortes une peau de tigre couchée devant le foyer, quelques chaises de cuir disposées autour de la table, 3 ou 4 grands fauteuils de tapisserie, et on aura tout le mobilier de cette pièce qui servait à la fois de salon, de cabinet de travail, de bibliothèque et de fumoir aux hôtes de la Maison Blanche. Les deux jeunes gens fumaient et Tambour dormait devant le feu, le museau entre les pattes. « Ainsi donc elle t'a trahi, » dit Georges en poursuivant un entretien dont les premiers épanchements avaient été échangés pendant le dîner. Valentin soupira et se mit à raconter à Georges, qui ne l'écoutait que médiocrement, une de ces histoires parisiennes dont le dénouement ne varie jamais. Le soir où son infortune lui avait été révélée, Valentin, saisi d'indignation et de surprise, avait eu la pensée un instant de provoquer son rival. Une réflexion l'avait retenu. Pouvait-il rendre à son cœur les illusions perdues ? Il était monté chez la perfide et dans cette chambre où tant d'heures charmantes s'étaient envolées, il avait laissé sa carte avec ces 3 mots. « Adieu, soyez heureuse. »« C'est un peu vieux, » répondit Georges avec un sourire, « mais enfin, cela vaut mieux qu'un coup d'épée. »« Tu ris, ben, on meurt pas de douleur, puisque tu me vois encore. » Valentin se leva et fit quelques tours en soupirant. Puis appuyant sa main sur l'épaule de Georges, « Oh, c'est fini, » dit-il d'un air sombre, « je ne crois plus à rien. » Je renonce à ces trompeuses créatures. Je m'enferme avec toi. Nous lirons les moralistes qui ont écrit contre les femmes. Nous les embellirons de nos commentaires enrichis du récit des désastres personnels. Nous ferons un cours de misanthropie et, si quelqu'une de nos anciennes connaissances se hasarde à frapper à notre porte, nous la recevrons à coups de fusil. Tu ne vois personne, au moins, toi. « Non, personne, » dit Georges, en hésitant un peu. « Bien. Je prétends vivre ici en cénobite. Si tu voyais quel être vivant en dehors de Tambour, j'émigrerais. » « À propos, » dit Georges, qui n'était pas fâché de détourner la conversation, « es-tu toujours dans les affaires ?»« Oh, fi donc, il y a 6 mois que je m'en suis tiré. » N'y entendais rien. Bon, j'ai bien vu que ma vocation m'appelait dans la presse. Tu te souviens de quelle façon j'étais sur la polémique au collège? J'ai fondé un journal. Oh, il est mort au plus fort de son succès. J'allais poursuivre ma candidature à la députation quand la trahison que tu sais a tout brisé venait de cœur à rien. Cependant, je sens bien que je suis né pour la politique. Valentin des Aubiers était un des plus vieux amis de Georges. Ils s'étaient rencontrés au collège et n'avaient pas cessé de se coudoyer dans la vie au milieu de laquelle Valentin marchait un peu comme ces écoliers qui, répandus dans les bois, oublient qu'ils ont des broussailles entre les jambes et des racines sous les pieds. Chaque nouvelle chute lui semblait la première. Il s'écriait avec candeur que ces choses-là n'arrivaient qu'à lui. C'était alors de grands découragements qui duraient 6 jours ou 6 semaines, après quoi il n'y pensait plus et repartait d'un pied léger avec la même espérance et la même sécurité. Le prochain accident menait une nouvelle surprise qui ne le guérissait pas davantage. Ses amis disaient de lui qu'à 50 ans, il y en aurait 25 et que s'il arrivait à la centaine, il faudrait certainement le renvoyer à l'école. Avec une fortune qui leur aurait permis de vivre à sa guise, Valentin avait bravement mis le pied dans toutes les carrières et s'en était retiré impétueusement au premier obstacle. La dernière qu'il embrassait était toujours la meilleure et celle qui répondait le mieux à ses instincts. À peu près riche et maître de son temps, Valentin n'avait pas traversé Paris sans y faire de ces rencontres qui font ressembler la vie à des routes semées d'auberges où des cœurs de toutes sortes se tiennent en embuscade, pareil à ces hôteliers fameux dont Guzman d'Alraffe raconte les prouesses. Toutes les fois que le hasard le faisait entrer dans une de ces auberges, il ne manquait pas de croire qu'il s'y reposerait jusqu'à la fin de ses jours, et il faisait ses préparatifs en conséquence. Si quelqu'un de ses amis s'aventurait à lui dire que ce petit coin du paradis dans lequel il comptait savourer des délices toujours nouvelles n'était qu'une méchante halte entre deux étapes, il s'indignait et prenait le ciel à témoin du serment qu'il faisait de ne plus partir. Mais le cœur volage qu'il adorait accueillait-il un autre voyageur? Valentin tombait dans un morne désespoir et demandait naïvement au ciel comment tant de perfidie pouvait être éclairée par la lumière du soleil. Désormais, il n'y avait plus pour lui ni paix ni bonheur. La nuit se faisait dans son âme. Et il parlait sérieusement de passer le reste de ses jours dans une thébaïde où jamais le pied d'une femme ne put arriver. La même bonne foi qu'il avait apportée dans son ivresse, il l'apportait dans son affliction, et celle-ci lui semblait éternelle, comme il avait cru l'autre impérissable. C'était donc au plus fort d'une de ces catastrophes périodiques qu'il venait demander à Georges de l'abriter dans sa solitude. Valentin ne venait pas pour la première fois à maison, et ainsi s'expliquait le sobriquet de chambre du désespoir qu'on donnait à la pièce qui lui était réservée. Le lendemain, au petit jour, Valentin frappa à la porte de son ami. Tu dors, toi, oh, t'es bien heureux. Que fais-tu aujourd'hui? Dit-il. Oh, rien. Eh bien, si tu veux, nous irons déjeuner à Saint-Germain. C'est là que j'ai connu Clotilde. Oh, nous traverserons la forêt, et cette promenade matinale me rendra peut-être l'appétit que j'ai perdu. Oui, soit. Georges s'habilla en toute hâte et descendit. Mais au bas de l'escalier, il se souvint que Madame Rose l'attendait chez la Thibaude. S'il voulait être exact, il n'avait pas le temps d'aller à Saint-Germain et d'en revenir. Et pour rien au monde, cependant, il n'aurait consenti à manquer ce rendez-vous. Viens-tu? Lui cria Valentin. Tambour, qui était du voyage, appuya la sommation d'un aboiement. Georges cherchait un prétexte et n'en trouvait pas. Il savait Valentin très curieux, il ne se souciait pas de le mettre dans sa confidence. Quel beau thème à de longs discours! Cependant, il était résolu à ne pas le suivre jusqu'à Saint-Germain. « Oh, mon Dieu !» s'écria-t-il, après qu'il eut fait une centaine de pas. « Oh, j'ai oublié que j'ai affaire de l'autre côté de l'eau, à Herblay. » « Chez qui ?» demanda Valentin. « Oh, chez le curé !» répondit Georges étourdiment. « Bon, ben, alors j'irai avec toi !» Georges comprit que Valentin était décidé à ne pas le quitter. « Veux-tu pêcher ? » dit-il brusquement. « Ah, tu pêches donc ?»« Oh, toujours, c'est très amusant. On a une ligne à la main, on pense à ce qu'on veut, et le poisson mord. »« C'est ce qu'il y a de mieux quand on a du chagrin. » « Donne-moi une ligne, » répondit Valentin. Georges courut dans sa bibliothèque et redescendit avec tout un appareil de pêche. On partit pour le bord de la rivière, et Georges installa Valentin au pied d'un massif de saules qui masquait la vue de tous côtés. « L'endroit est excellent, il fourmille de goujons, » dit-il. « En un quart d'heure, on en prend 2 douzaines. Allez, reste là, moi je vais un peu plus loin. » Derrière ce gros peuplier. Et Georges se mit à courir dans la direction du peuplier. Mais à 20 pas plus loin, il se glissa derrière le rideau des saules, gagna la crique où se balançait la tortue, sauta dedans et passa la rivière à grands coups de rame. 5 minutes après, il gravissait la côte d'Herblay à toutes jambes et entrait chez la Thibaude. « Enfin !» s'écria Madame Rose. « Oh, j'ai cru que vous n'arriveriez jamais. »« Mais c'est que j'avais un ami et qu'il ne me quittait pas. Mais il fallait l'amener avec vous. » Georges ne répondit rien. Il eût été fort en peine d'expliquer pourquoi il n'avait pas voulu que Valentin l'accompagnât dans sa visite. Et cependant, il eut renoncé au plaisir qu'il en attendait, plutôt que de le partager avec son ami. Madame Rose le regarda. Un peu troublé, il s'assit et passa un mouchoir sur son front baigné de sueur. « Bonté du ciel, faut-il que vous ayez couru ?» reprit-elle. Et furetant dans tous les coins de la cabane, elle prépara un verre d'eau rougie qu'elle lui présenta. « Maintenant, dit-elle après qu'il eut bu, c'est 10 francs que vous me devez. Je me suis mise en tête d'assurer une dot à cet enfant. » « Oh, cela l'aidera à trouver un mari, il vous apprendra à tirer de l'eau les personnes qui se noient. » Georges vida sa poche dans la bourse de Madame Rose, qui en versa le contenu sur le lit de la petite fille. « Es-tu riche, hein ?» dit-elle. L'enfant, tout étonné, prit les grosses pièces blanches entre ses doigts. « Oh, mère, un sou jaune, tout jaune !» s'écria-t-elle en tirant un louis du milieu de son trésor. Madame Rose embrassa l'enfant. « Mère Thibaude, dit-elle, ramassez tout cet argent, sans oublier le sou jaune. Vous en userez pour les besoins de votre fille, et s'il vous manque quelque chose pour le ménage, Jeanne vous prêtera bien tout ce qu'il faut. » Monsieur de Francalin se rapprocha de Madame Rose, et leurs têtes se rencontrèrent au-dessus du petit lit où l'enfant jouait avec une poupée de carton qui lui semblait magnifique. « Jeanne a la fièvre, » dit Madame Rose à demi-voix. « Voyez !» Georges prit la main de l'enfant. « Et Jacques ?» dit-il. « Oh, Jacques trotte comme une souris. Oui, c'est le garçon qui a failli se noyer, c'est la fille qui est malade. Il faudra un médecin tous les jours. » « En avez-vous parlé à la Thibaude ?»« Je m'en suis bien gardé. Elle aurait peur de la dépense. Qui sait si ce pauvre ménage n'a pas de dette ?»« Regardez cette couverture, il y a plus de trous que de laine. »« On enverra le médecin sans prévenir personne. Il faut aussi des bardes et du linge. »« Nous écorderons la dot et nous remplirons les armoires. Cela vous va-t-il ?» « Volontiers, je serai votre débiteur. »« Alors, nous allons chercher le médecin et tout acheter. Avez-vous la tortue par là ?»« Le canot, il est au bas de la côte. »« Eh bien, vous allez me conduire jusqu'à maison, et avant ce soir, le ménage aura tout ce dont il a besoin. » Madame Rose caressa Jeanne, dit bonjour à la Thibaude et sortit d'un pied leste. Est-ce donc ainsi que vous passez toutes vos journées? Lui dit Georges, tandis que la tortue glissait au fil de l'eau. Quand l'occasion s'en présente, on la saisit. Il n'y a pas beaucoup de distractions à Herblay. On prend celle qui se trouve. Mais si j'en crois le peu que j'ai vu, au train nommant les distractions, les malheureux doivent vous bénir. Oui, ils sont bien bons. Alors que voulez-vous que je fasse les jours de pluie? On entre un peu partout, un jour par-ci, un jour par-là. Et au lieu d'acheter des robes qu'on ne mettrait guère, on achète des couvertures et des jaquettes qui servent toujours. Cela occupe. N'importe, amusement ou charité, les pauvres perdront beaucoup quand vous retournerez à Paris. À Paris, oh, je n'y retournerai pas de si tôt, si même j'y retourne jamais. Alors, voulez-vous me mettre de moitié dans vos distractions? Ah, vous comptez donc passer l'hiver à maison? Oui. La réponse vint si vite et le regard qui l'accompagna fut si franc que Madame Rose ne put s'empêcher de sourire en rougissant. Un léger brouillard qui courait sur l'eau les enveloppait. À quelques pas du bateau, on ne voyait rien. Ils étaient comme seuls au monde. Un peu d'embarras se glissa entre eux. Madame Rose ramena sa mante autour d'elle et regarda dans la brume où l'on voyait par intervalles se dessiner la silhouette grise des peupliers. Georges pressa le mouvement des rames pour arriver plus vite. Peut-être pensaient-ils tous deux aux circonstances inconnues qui les avaient contraints si jeunes l'un et l'autre, à chercher l'isolement dans la campagne et à s'y renfermer pendant la froide saison. De longs aboiements les tirèrent de cette rêverie qui les unissait à leur insu, et en abordant sur le rivage, ils virent Tambour, qui, pour distraire son ennui, guerroyait contre les vaches qu'on menait à l'abreuvoir. « Oh mon Dieu !» s'écria Georges, « pourvu que mon ami n'ait pas suivi le chien !» Madame Rose le regarda gaiement. « Mais voilà un ami qui vous fait grand-peur, » dit-elle. « Oh, je l'aime beaucoup, » dit Georges, qui venait de s'assurer par un coup d'œil de l'absence de Valentin. Il siffla Tambour, qui laissa là ses vaches et vint tout courant se jeter sur Madame Rose. « Ah, madame, » reprit Georges, « il faudra que vous vous y fassiez. À présent qu'il vous mette au nombre de ses connaissances, il ira partout vous dire bonjour. » Madame Rose caressa le chien et prit le bras du maître. L'ombre était venue quand M. de Francalin quitta Madame Rose. Il ne lui semblait pas qu'il eût passé plus d'une heure avec elle. À son retour, il aperçut Valentin qui se promenait devant la Maison Blanche à pas précipités. Le bout de son cigare brillait comme un phare. On voyait qu'il fumait avec rage. « Ah, te voilà !» cria Valentin, qu'un bond de Tambour avait surpris dans sa promenade. « Et ce peuplier sur lequel tu paraissais si impatient de t'asseoir, l'as-tu trouvé ?»« Je t'ai fait attendre, » répondit Georges. « Attendre, c'est-à-dire que voilà 3 heures que je n'attends plus. » Georges passa son bras sous celui de Valentin. « Voyons, ne te fâche pas, » reprit-il. « Qu'aurais-tu fait chez le curé? Et puis il y a des heures où j'ai besoin d'être seul. C'est une manie. Ça ne te prend jamais, toi, ces idées-là ?»« Oh, si !» répondit Valentin d'un air tragique. « Eh bien, faisons une convention. Quand l'un de nous aura ses humeurs noires, il mettra une feuille d'arbre à son chapeau. » La feuille mise, il sera en quarantaine. Nous économiserons ainsi les frais d'explication. Cela te va-t-il? Mais cela me va. C'est bon, tu aurais dû penser à la feuille plus tôt. Les bonnes idées ne viennent pas tout de suite. Ainsi c'est convenu, hein. La feuille arborée, c'est la cocarde du silence et de l'isolement. Si je la mets quelquefois, tu ne te fâcheras pas. Bon, te gêne pas, moi je la mettrai souvent. « Dès demain, j'en aurai une et je vais l'accueillir. » Le lendemain matin, Georges et Valentin ne purent s'empêcher de sourire en se regardant. Ils avaient tous deux une feuille d'arbre attachée à leur chapeau. Mais, fidèles de la foi jurée, ils se saluèrent de la main sans se parler. Georges allait rejoindre Madame Rose. Valentin allait se promener avec son désespoir. Ils vécurent ainsi quelque temps. Les feuilles allaient et venaient. Valentin jurait ses grands dieux qu'il ne ferait plus à aucune femme l'honneur de l'apercevoir. Mais souvent déjà, il retournait à Paris et y demeurait un jour ou deux, quelquefois trois ou quatre. C'était comme des petites vacances qu'il donnait à sa douleur. Georges le trouvait tout bien, pourvu qu'on lui permît de gravir la côte d'Herblay chaque matin. Quand un hasard s'opposait à ce qu'il vît Madame Rose, la journée lui semblait vide. Malgré l'humeur égale de sa voisine et la sérénité qu'on voyait en elle, on sentait qu'il y avait un chagrin dans sa vie, comme on devine un certain bouillonnement qui ride la surface des lacs, que des sources invisibles s'épanchent dans leurs secrètes profondeurs. Mais ce chagrin, monsieur de Francalin, ne se l'expliquait pas, et madame Rose n'en parlait jamais. Elle avait une manière de regarder bien en face, avec des yeux limpides et chastes, qui rendaient toute question presque impossible. Et ce n'était pas Georges qui aurait eu l'intrépidité de lui en adresser. On sait que madame Rose vivait seule avec une vieille servante dans une petite maison où jamais elle ne recevait personne, si ce n'est monsieur de Francalin, le curé d'Herblay, et quelques notables du village qui venaient lui demander des secours pour leurs pauvres. Cette solitude profonde, avec toutes les apparences des habitudes les plus élégantes, n'était pas déjà tout à fait ordinaire. On sait en outre que le piéton lui remettait souvent des lettres qu'elle lisait avec avidité et qui la jetaient dans un grand trouble. Georges l'avait quelquefois surprise après ses lectures, et il voyait sur ses joues comme des traces de larmes. Il ne pouvait alors s'empêcher de penser à cet inconnu qui deux ou trois fois avait paru à Herblay et qu'il n'avait pas vu. Était-il pour quelque chose dans ces larmes secrètement versées? Quel titre avait-il au souvenir de Madame Rose et quelle place tenait-il dans son intimité? Canada avait raconté à monsieur de Francalin que dans les premiers temps du séjour de Madame Rose à Herblay, on avait épluché sa conduite jour par jour, heure par heure. Et les plus méchantes langues n'avaient rien pu découvrir qui prêtât aux médisances. On en vint à penser que, si elle avait quelque sujet d'être malheureuse, c'était un grand crime de la part de ceux qui en étaient la cause. Quelques indices pouvaient faire croire qu'elle était de Paris, ou que du moins elle l'avait longtemps habité, puisqu'il y allait encore de temps à autre. Mais on ne pouvait tirer aucune conséquence de ces voyages, qui étaient d'ailleurs fort rares et fort courts. Madame Rose rappelait dans sa retraite d'Herblay ces beaux oiseaux qu'un coup de vent a jetés sur des rives lointaines et qui s'y arrêtent quelque temps. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont. Au plus fort de l'hiver, après 2 mois de séjour à Malmaison, et quand les branches de houx avaient remplacé les feuilles jaunes ramassées chaque matin et dont se paraient les jeunes gens, Valentin allait savoir une grande négligence dans la toilette de son chapeau. Souvent même, il faisait de longues absences de plus en plus renouvelées. Mais quand il était à la Maison Blanche, Georges était à peu près sûr de le trouver sur son passage, aussitôt qu'il mettait le pied dehors. Un matin, qu'il avait oublié de se couvrir de l'emblème protecteur, Valentin l'aborda résolument. Oh, je connais ta solitude, lui dit-il. Elle a les cheveux châtains et les yeux bleus. Georges se mordit les lèvres. Alors après, dit-il d'un ton bourru, oh, te fâche pas. Tu as le goût bon, et je comprends qu'on passe l'hiver auprès d'elle. Tu aurais dû seulement me prévenir plus tôt. Je ne t'aurais pas si longtemps dérangé. Georges frappa du pied. Mais que crois-tu donc? S'écria-t-il. Parbleu, c'est assez clair. Tu habites le parc de maison, elle demeure à Herblay. La Seine vous sépare, mais l'amour a jeté un pont sur l'eau, et vous faites à vous deux la plus jolie pastorale qu'on puisse voir. Je m'explique à présent pourquoi tu courais si souvent chez le curé. Ne va pas plus loin, s'écria Georges en saisissant le bras de Valentin. Je n'ai même pas baisé la main de Madame Rose. Valentin partit d'un grand éclat de rire. Elle s'appelle Madame Rose, et tu en es là, dit-il. Georges regarda Valentin, tout surpris. « Mais tu la connais donc ? » reprit-il. « Pas du tout, ben à quoi bon ? Résolons un peu, s'il te plaît. Voilà une femme avec qui on ne voit ni père, ni frère, ni mari. Oui, je prie mes renseignements. Qui demeure toute seule à Herblay et qui s'appelle Madame Rose. Est-ce assez de preuves ou de symptômes, si le mot te paraît trop vif ? » Valentin continua quelque temps sur ce ton de persiflage. Les arguments ne lui manquaient pas pour détruire les objections de Georges, à mesure que celui-ci les produisait. La bonne réputation, Madame Rose, ne témoignait qu'en faveur de son adresse. Cette charité inépuisable qu'elle montrait prouvait qu'elle avait la main prodigue. Ce mystère dont elle s'entourait n'indiquait-il pas suffisamment qu'elle avait une vie antérieure à cacher? Et quelques jours, on découvrirait qu'elle s'appelait de son vrai nom, Madame de Saint-Phar ou Madame de Saint-Pierre. Il arrive souvent que les choses qui impressionnent le plus douloureusement sont précisément celles auxquelles on s'arrête le plus volontiers. Chaque parole de Valentin blessait Georges au cœur, et il en gardait l'empreinte profondément. Il faut dire aussi que tous ces raisonnements présentés sous une forme railleuse, il se les était faits à lui-même bien des fois. Il ne croyait pas beaucoup aux vertus cachées comme les violettes au fond des bois, à ces âmes blessées qui ensevelissent leurs larmes dans le silence et la retraite, pareilles aux biches qui meurent sous l'ombre muette des taillis. Le motif qui l'avait conduit à maison le rendait peu propre à ses chères croyances, qui sont l'apanage des jeunes esprits. Il ne pouvait pas non plus oublier les visites de l'inconnu qui payait si généreusement à Canada une promenade en bateau. Que de fois ce souvenir cruel ne l'avait-il pas troublé dans son bonheur? Mais en présence de Madame Rose, il subissait le charme et ne voyait plus qu'elle. À la voix moqueuse de son ami, les soupçons lui revenaient en foule. Certainement, ce que Valentin disait dans ce moment était en parfaite contradiction avec ce qu'il avait fait lui-même toute sa vie et ce qu'il était prêt à faire le lendemain. Mais en quoi la logique paraît-elle dans les actions humaines? Ce n'était pas d'ailleurs un motif pour amoindrir l'effet de ses remontrances. Georges allait, venait, mâchait avec fureur un cigare qu'il finit par jeter violemment. En tirant de sa poche un étui pour lui en offrir un autre, Valentin fit tomber une lettre couverte d'une écriture fine qu'il s'empressa de ramasser. « Qu'est-ce que cela ?» dit Georges. « Oh, une lettre d'affaires qui me force à retourner à Paris, mais pour quelques jours seulement, » répondit Valentin un peu troublé. Georges le regarda. « Oh, une lettre d'affaires sur papier rose, bon, mais voilà que ta maladie te reprend, » s'écria-t-il. Heureux d'exercer des représailles. Bon, ben, accompagne-moi, tu verras que Mathilde ne ressemble pas à toutes les autres, répondit Valentin avec une exaltation inaccoutumée. Ce cri était comme le chant de l'insurrection. Adieu le chagrin, le désespoir n'était plus de saison. Georges haussa les épaules, mais l'impression que Valentin avait éveillée resta dans son cœur. Il n'alla pas à Herblay ce jour-là, ni le jour suivant. Il gronda Petroni et repoussa Tambour, qui ne savait à quoi attribuer ses accès de mauvaise humeur, et s'en vengeait en disparaissant jusqu'au soir. Quand Valentin partit, Georges l'assura qu'il ne tarderait pas à le rejoindre, et le quitta pour préparer sa malle. Mais il tourna du côté de la rivière et monta sur la tortue. Il n'avait pas donné 10 coups de rame qu'il aperçut Madame Rose sur la rive opposée et Tambour auprès d'elle. Il salua la dame et siffla le chien sans s'arrêter. Le cœur lui battait à l'étouffer. Tambour arriva à la nage en rechignant et son maître le jeta au fond du canot d'un coup de pied. Il rentra le soir, mécontent de lui et mécontent des autres. Le dîner que Petronille lui servit lui parut détestable. Il prit un livre, s'enferma et ne put lire. Les plaintes du vent qui soufflait lui rappelèrent une soirée qu'il avait passée auprès de Madame Rose à Herblay au coin du feu. Jamais soirée ne lui avait semblé si courte. Et avec quel plaisir ne regardait-il pas la lumière qui brillait derrière les vitres de la maisonnette, tandis qu'il descendait la côte au bas de laquelle son canot l'attendait. « Ah, oh, mais pourquoi Valentin est-il venu ?» murmura-t-il. Le lendemain, il passa la rivière sans y penser. Il n'avait pas dormi de la nuit. Il monta chez la Thibaude et poussa la porte. Madame Rose était assise au pied d'un petit lit dans lequel Jeanne était couchée. Elle mit un doigt sur sa bouche en le voyant. « Ne faites pas de bruit, dit-elle, la petite repose. » « Mais qu'est-il donc arrivé ?» demanda Georges en apercevant la Thibaude qui pleurait dans un coin. « Jeanne a failli mourir depuis qu'on ne vous a vu, » répliqua Madame Rose en parlant tout bas. « Elle a eu un transport au cerveau. Elle s'est endormie ce matin et le médecin pense qu'elle est hors de danger. Mais il a recommandé beaucoup de repos et de précautions. J'ai voulu l'emmener chez moi, mais sa mère n'a pas voulu. » « Mais non !» dit la Thibaude en se rapprochant du lit de Jeanne d'un air farouche, comme une louve dont on menace les petits. Cette mère si rude qui frappait son garçon au moment où on le retirait de l'eau avait des larmes dans les yeux en regardant dormir sa fille. Elle se baissa et embrassa les draps qui la couvraient. Georges, qui regardait tour à tour la Thibaude et Madame Rose, s'aperçut alors que celle-ci avait les yeux fatigués et le teint battu, comme une personne qui a longtemps veillé. Il se rapprocha d'elle. « Qu'êtes-vous devenu ? » lui dit-elle. « Oh, si je n'avais pas vu Tambour tous les jours, j'aurais cru que vous étiez malade. »« Vous en seriez-vous informé seulement ?» dit M. de Francalin. « Mais certainement. Vous me croyez donc bien un peu attaché à mes amis. Pourquoi ne vous êtes-vous pas approché de moi hier ?» Quand vous êtes passé sur la rivière avec la tortue, je vous ai fait signe avec la main, vous avez détourné la tête. Vous étiez fou, répondit Georges. Si la présence de la Thibaude ne l'avait pas retenu, il se serait jeté aux pieds de Madame Rose et lui aurait baisé les mains avec transport. Rien ne lui restait plus dans l'esprit de tout ce que Valentin lui avait dit. Ses soupçons qu'il avait vaguement conçus et ce dédain que la veille il avait montré lui semblait le plus grand des crimes. « Ainsi, vous avez veillé auprès de ces pauvres gens ?» reprit Georges attendri. « Vous ne craignez pas que la fatigue vous rende malade ?»« Moi, mais qu'ai-je de mieux à faire ?» dit Madame Rose. La nuance de tristesse qui perçait dans ses paroles ne pouvait échapper à Georges. Son émotion s'en augmenta. Sous prétexte de caresser Tambour qui venait brusquement de se jeter entre eux, il se baissa et embrassa le bas de la mante qui enveloppait Madame Rose. Il avait le cœur gonflé. Comme il arrive toujours, la réaction victorieuse le poussait plus loin qu'il n'était jamais allé. Si Valentin se fût présenté à la porte, il l'aurait battu. Faut-il ajouter que Georges resta toute la journée à Herblay et qu'il ne manqua pas d'y retourner le lendemain. Tambour n'était pas le plus leste à partir, Jeanne étant la protégée de M. de Francalin, comme elle était celle de Madame Rose, les prétextes ne lui manquaient pas pour entrer chez la Thibaude à toute heure. D'ailleurs, à vrai dire, il n'en cherchait plus. Il avait été impossible de taire à Madame Rose le motif de cette absence qu'elle avait remarqué. Si une force secrète le poussait à s'en confesser, peut-être espérait-il aussi tirer d'elle quelque explication. Mais de ce côté-là, son espoir fut déçu. Madame Rose écouta son aveu avec un sourire où une sorte de mélancolie se mêlait à l'étonnement. « Si vous me connaissiez mieux, dit-elle, rien de semblable ne vous serait venu à l'esprit. Mais je suis seul. Ce n'est donc pas votre faute si vous m'avez mal jugé. » Cette résignation toucha M. de Francalin plus que ne l'aurait fait 1000 protestations d'innocence. Quand la petite Jeanne fut tout à fait rétablie, Georges pria Madame Rose d'accepter un dîner à la Maison-Blanche pour lui bien prouver qu'elle ne lui en voulait pas. « J'y consens, dit Madame Rose, mais à une condition. C'est qu'au lieu de dîner, nous déjeunerons. Quand on est seul, les choses qu'on fait, il faut les faire au grand jour. » Le matin du jour convenu, Georges et Tambour allèrent prendre Madame Rose dans sa petite maison d'Herblay. La tortue, que ce poids nouveau semblait alléger, traversa lestement la rivière. Tambour manifestait sa joie par mille cabrioles. Pour ne pas s'éloigner de la main caressante de Madame Rose, il négligea le taureau noir dont il entendait au loin les mugissements. La table était dressée dans une petite pièce qui donnait sur la prairie et qu'éclairait un gai soleil. Petroni s'était surpassé dans l'ordonnance du menu, et Jacob avait trouvé des fleurs pour égayer le service. Pendant le déjeuner, Georges se montra plus embarrassé que Madame Rose. Mille choses lui venaient aux lèvres qu'il ne disait pas. Il était heureux, mais inquiet. Il lui semblait que les aiguilles de la pendule, en marchant, lui dérobaient une part de son bonheur. Le repas fini, ils visitèrent ensemble le jardin et la maison. La bibliothèque surtout les retint longtemps. Elle était ouverte au jour de tous côtés. L'éclat du feu pétillant se mêlait aux rayons du soleil qui entrait joyeusement par les fenêtres. Madame Rose avisa dans un coin au-dessus de la cheminée un portrait de femme en médaillon. Elle le prit et l'examina. « C'est une bien jolie femme, dit-elle. »« Je l'ai cru quelque temps, répondit Georges. » Il s'empara du médaillon que Madame Rose avait posé sur la cheminée et le jeta dans le feu. Tout le visage de Madame Rose devint rouge. Elle avança la main pour le retirer. Georges la saisit. « Il est trop tard à présent, dit-il. » Il sentait que la main de Madame Rose tremblait entre les siennes, tandis que la flamme dévorait le médaillon. Elle la dégagea doucement et regarda par la fenêtre, ne sachant comment dissimuler son trouble. Georges gardait le silence. Il s'était fait comprendre tout d'un coup, en quelque sorte malgré lui, et craignait de parler de peur d'offenser sa compagne. Ils restèrent ainsi, l'un près de l'autre, quelque temps, immobiles et tremblants. Tambour, qui jouait entre eux, les poussait gaiement de son museau. Il le caressait quelquefois de la main, mais évitait de se regarder. « Et voilà que le soleil se couche, » dit enfin Madame Rose. « Déjà ?» s'écria Georges naïvement. Ils retournèrent à Herblay par le même chemin qu'ils avaient pris pour venir, et Tambour fut encore du voyage. « Au revoir, » dit Madame Rose doucement, quand elle fut devant sa porte. Georges descendit à la côte d'Herblay en bondissant. Lorsqu'il fut au bord de la rivière, il se retourna et vit au loin dans la nuit une lumière qui brillait à la fenêtre de Madame Rose. « Ah !» dit-il à mi-voix. Elle m'aimera peut-être un jour, peut-être m'aime-t-elle déjà. » Il sauta dans son canot et le laissa descendre au fil de l'eau. Il regardait le ciel plein d'étoiles. Il avait le feu dans le cœur. Il lui semblait qu'il avait 20 ans. Oh, hier, oh, mes chagrins, où êtes-vous? Dit-il. À quelque temps de là, il reçut un billet de Valentin, dont il n'avait pas eu de nouvelles depuis son départ de la Maison Blanche. Par ce billet, orné de quelques plaisanteries sur l'amour de Georges pour la solitude, Valentin prévenait son ami qu'il se proposait de lui rendre visite le lendemain avec quelques personnes de ses amis et qu'on lui demanderait à déjeuner. Un post-scriptum plus long que le billet ajoutait que Mathilde serait de la partie. Elle avait désiré faire la connaissance de M. de Francalin et Valentin n'avait rien eu de plus pressé que de céder à ce vœu. « Pourquoi n'y a-t-il pas deux Mathilde sur la terre? Oh, tu serais heureux !» disait-il en finissant. Georges sourit et donna ordre à Jacob de tout préparer pour le déjeuner. Mais le lendemain, quand Pétronille lui demanda où il faudrait dresser le couvert, l'idée que tout ce monde tapageur et vagabond s'abattrait dans cette même pièce que Madame Rose avait traversée lui devint tout à coup insupportable. Il lui sembla que ce serait une profanation et que rien ne pouvait l'excuser. Tout ce bruit, tous ces rires, toutes ces chansons, ces robes de soie équivoques, ces dentelles frelatées, dans cette maison où la chasteté avait laissé son parfum, révoltait sa pensée. Son cœur en avait comme le dégoût. Il appela Jacob et lui cria de courir au petit havre et d'y retenir bien vite la chambre la plus grande. Pétronille fut invité à renverser ses fourneaux et à transporter tout le produit de sa science dans la cuisine de l'auberge. « Après quoi, reprit-il, vous fermerez la porte, et si l'on vous interroge, vous direz que je n'entrerai pas de 15 jours, parce que les cheminées fument. » Pétronille gronda, Jacob obéit sans répondre, comme c'était son habitude, et Georges alla bravement se poster sur la grande avenue de maison pour attendre ses convives, qu'il mena tout droit à l'auberge. « Quoi, c'est pas chez toi que nous allons ?» dit Valentin. Bon, la cuisine est en réparation. Bon, ben, tu nous feras voir la bibliothèque. Les maçons l'ont ravagée. Alors, nous nous promènerons dans le jardin. Il est tout effondré. Valentin regarda Georges sournoisement. Ah, je vois ce que c'est, reprit-il. La solitude demeure à la Maison Blanche. « Écoute, répondit Georges en pressant le bras de Valentin, avec un accent où le rire se mêlait à la colère. Tu as du vin de Bordeaux et du vin de Champagne, des volailles exquises et des pâtés délicieux. Bois et mange. Mais si tu me parles encore d'elle, ici surtout, il faudra que je te tue, aussi vrai que tu es mon ami. « Bon, je te comprends, répliqua Valentin en regardant Mathilde. C'est comme moi, hein, tu aimes. » Georges lui tourna le dos. Jamais journée ne lui parut plus longue. Toute son intelligence s'appliqua à conduire ses convives loin de la Maison Blanche, et toute sa crainte était que le hasard ne lui fît rencontrer Madame Rose. Chaque fois qu'il apercevait une robe de femme au détour d'une allée, il tressaillait. Parler d'elle ou la laisser voir par une telle compagnie lui paraissait un sacrilège. Cet amour né dans la retraite et que le monde ignorait lui avait comme rendu toutes les délicatesses et toutes les susceptibilités charmantes des premières émotions. Et alors il n'entendait rien de ce qu'on disait autour de lui. C'était comme si l'on se fût exprimé en une langue étrangère. Les propos les plus extravagants et les rires les plus fins et vifs n'y faisait rien. C'est donc là ce qu'on appelle de la gaieté, disait-il. Et il ne comprenait pas qu'il eût jamais pu être gai de la même manière. Après le déjeuner, on dîna, et il fallut mettre le village à sac pour trouver un menu présentable. Au dessert, on fit grand bruit. Tous ces cris, toutes ces plaisanteries, qui avaient la prétention d'être spirituelles, jetèrent M. de Francalin dans une mélancolie singulière. Il regardait les convives tour à tour avec étonnement. « Sont-ils malheureux de s'amuser ainsi ? » répétait-il. « Le dîner fini, on voulut se promener en bateau. Les bords de la Seine retentirent de chants. Georges trouva qu'on lui gâtait sa rivière. Combien elle était plus belle quand la tortue passait seule avec Madame Rose. Quand la compagnie songea à se retirer, le dernier convoi du chemin de fer était parti. On dut mettre en réquisition toutes les voitures du pays pour trouver des moyens de transport. Quelques tours de roue emportèrent enfin la dernière chanson et le dernier adieu. Georges prit sa course du côté d'Herblay. Il était à bout de patience et avait besoin de respirer un peu, le même air que respirait Madame Rose pour se rafraîchir. Le temps était magnifique. Le croissant de la lune montait au-dessus de la forêt de Saint-Germain. Les premières senteurs de la verdure nouvelle remplissaient l'atmosphère. Georges cueillit dans les haies de gros rameaux de branches fleuries. Il en fit un bouquet qu'il posa sur l'appui d'une fenêtre derrière laquelle Madame Rose travaillait souvent. « Elle le verra demain, » dit-il. « Il faudra bien que sa première pensée s'adresse à moi. » Quand il rentra à la Maison Blanche, Jacob lui remit une lettre timbrée de Beauvais. « Tiens, de ma tante, » dit Georges. La baronne Alice Augustine de Boisfleury priait en quelques lignes son neveu de venir la voir à Beauvais, où elle avait découvert une jeune fille d'extraction noble qu'elle désirait lui faire épouser. Elle ajoutait que jamais occasion meilleure ne se présenterait et faisait entendre qu'une bonne moitié de sa fortune récompenserait la soumission de son bon neveu. « Bonsoir, » dit Georges en jetant la lettre. Il souffla la bougie et s'endormit en pensant à Madame Rose. Lorsque M. de Francalin se présenta le lendemain vers 10 heures chez Madame Rose, elle n'y était déjà plus. Gertrude lui annonça qu'elle avait dû se rendre à Paris de grand matin. Elle ne savait pas à quelle heure sa maîtresse rentrerait. « La lettre qui l'a fait partir l'a rendue bien triste, » reprit Gertrude. « Ah, c'est une lettre, » dit Georges. Ce seul mot réveilla en partie les doutes que Valentin avait excités déjà. Il se souvint de l'inconnu. Georges se promena devant la maison, sans parler, jusqu'à midi. Il craignait d'interroger la bonne femme et à chaque instant, il ouvrait la bouche pour le faire. Afin de ne pas succomber à la tentation, il s'éloigna, Tambour le suivait. Mais habitué qu'il était aux rêveries de son maître, il ne se gênait pas pour courir un peu de tous côtés. Quelle était donc cette lettre mystérieuse qui appelait si précipitamment Madame Rose à Paris? Quel lien l'attachait encore à un passé mystérieux dont elle subissait l'influence? Mais pourquoi n'en parlait-elle jamais? Pourquoi même évitait-elle avec une sorte d'attention inquiète tout ce qui pouvait en rappeler le souvenir? N'était-elle donc pas sûre de l'ami qu'elle avait rencontré? Et craignait-elle de s'ouvrir un cœur qui lui appartenait tout entier? Cette crainte n'autorisait-elle pas à croire qu'il y avait quelque fondement de vérité dans les soupçons émis par Valentin? Georges débattait vainement contre toutes ses réflexions. Elle le poursuivait sans relâche, avec l'obstination de ces insectes qui assaillent un voyageur en été. Pour se délivrer de cette obsession tyrannique, il résolut de parler franchement à Madame Rose et retourna à pas rapide vers Herblay. Elle n'était pas encore arrivée. Il s'assit sur un banc à quelques pas de la maison et regarda devant lui. Il n'avait fallu qu'une minute pour changer en trouble la profonde quiétude où il vivait. Madame Rose s'était peut-être éloignée pour ne plus revenir. Maintenant, il la croyait capable de toutes les fautes dont son esprit la veille encore aurait repoussé la pensée avec horreur. Cette existence retirée qu'elle menait dans un village écarté n'était certainement qu'une expiation, ou peut-être même qu'un entr'acte entre deux équipées. Par un de ces revirements subits dont les âmes passionnées connaissent l'empire, les mêmes choses qui hier lui faisaient croire à l'innocent de cette vie chastement abritée sous un toit modeste, lui semblaient autant de preuves de la perfidie et de la corruption de Madame Rose. Il s'étonnait seulement de la place qu'elle pouvait tenir dans son cœur. Il avait été la dupe et le jouet d'une coquette. Comment se refuser à l'évidence? C'était bien la peine d'avoir 30 ans sonnés pour tomber dans des pièges auxquels les écoliers ne se prenaient plus. Paris me guérira, dit-il. Et il se leva brusquement. Au même moment, il aperçut Madame Rose qui montait la côte. Il courut au-devant d'elle. Ah, oh, qu'il me tardait de vous revoir, dit-il. Crainte, soupçon, colère, tout avait disparu comme par enchantement. Il ne pensait plus qu'au bonheur de voir Madame Rose et de lui parler. Elle lui prit le bras et le pressa silencieusement contre le sien. Elle avait dans la physionomie quelque chose de grave et de recueilli qu'il ne lui connaissait pas. Elle regarda la campagne où les premières chaleurs du printemps avaient semé les parfums de la violette. Si vous n'êtes pas fatigué, nous nous promènerons un peu, dit-elle. J'ai besoin d'air. Ils prirent par un sentier qui descendait vers la rivière. Madame Rose paraissait absorbée par une pensée intérieure. Ne pourriez-vous pas me dire ce qui vous préoccupe? Demanda Georges timidement. Si vous avez un chagrin, ne puis-je en prendre la moitié? Madame Rose secoua la tête. Non, dit-elle, c'est une lettre qui a causé cette tristesse, cette agitation, vous me voyez, et si je ne l'avais pas reçue, peut-être serais-je plus triste et plus agité encore. Un sentiment de jalousie se glissa dans le cœur de Georges. Celui qui a écrit cette lettre a donc une bien large part d'influence dans votre vie? Dit-il avec amertume. Bon, laissons cela, répondit Madame Rose. Elle tourna la tête du côté de la brise qui soufflait et l'aspira avec délice. Ah, qu'il fait bon ici, reprit-elle, et que vous êtes heureux de pouvoir y demeurer toujours. Cet impénétrable mystère dont Madame Rose s'enveloppait, cette volonté qu'elle montrait de ne pas permettre qu'on en soulevât un seul côté, irritèrent Monsieur de Francalin. Bon, toujours, c'est incertain, reprit-il d'un ton léger. Moi aussi, j'ai reçu une lettre d'une tante que j'ai dans le département de l'Oise à Beauvais. Elle veut me marier avec une riche héritière qui fait l'ornement de ce chef-lieu. Ah, fit Madame Rose. Oui, ma tante, la baronne Alice Augustine de Boisfleury, prétend que je ne serais resté plus longtemps célibataire sans compromettre la dignité et l'éclat de mon nom. Il faut vous dire que cette excellente baronne, je ne sais pas pourquoi, a pris son titre au sérieux et assure que mon nom de Francalin dérive de Francaleux, ce qui démontrerait tout au moins que mes ancêtres étaient les compagnons d'armes de Mérovée et de Clodion le Chevelu. Une si noble descendance ne saurait se perdre sans forfaire à l'honneur. Et c'est pourquoi madame ma tante s'est mise en quête d'une personne à qui je puisse m'allier. Elle l'a trouvé, à ce qu'il paraît, et bien que ma fiancée ne puisse prétendre à une origine aussi glorieuse, elle est de bonne souche et comtesse de son chef. Ma tante a souligné ces derniers mots dans un post-scriptum, où pour donner plus d'éclat à cette union des Francalin et des Valpierre, elle y ajoute l'appoint d'un demi-million. Et tout cela fut dit avec une extrême volubilité et d'un ton de persiflage sur lequel Monsieur de Francalin espérait dissimuler sa colère. Et qu'avez-vous répondu? Demanda Madame Rose. Moi, oh, j'ai refusé. Pourquoi? Ce mot dit simplement fit tomber la verve factice de monsieur de Francalin comme le plus léger choc abat un château de cartes. « Mais, dit-il embarrassé, j'ai refusé parce que... » Il ne put aller plus loin et s'arrêta court. « Parce que vous m'aimez, » poursuivit Madame Rose. Georges tressaillit à ce mot. « Est-ce bien cela, et ne me mentirez-vous » reprit-elle avec émotion. « Non, » répondit Georges, qui ne ricanait plus. Madame Rose s'appuya doucement sur son bras. « Écoutez-moi, » reprit-elle, « au risque de vous faire de la peine, laissez-moi tout vous dire. Ce mariage qu'on vous propose, il ne faut pas le refuser. Pourquoi me sacrifier votre avenir et m'offrir un dévouement que je ne puis pas récompenser ?» Georges vit bien à l'air de Madame Rose que l'entretien était sérieux. Il n'y avait en elle ni colère ni dépit, bien moins encore de coquetterie. Il en fut tout bouleversé. « Mais, dit-il, que vous importe que je me marie? Pourquoi m'y contraindre? Je ne vous demande rien, et suis heureux comme cela. Mais croyez-vous que je ne souffre pas du chagrin que je vous fais? Mais tout m'y force, reprit-elle, bien plus même. Quelles que soient vos résolutions, il faudra que vous quittiez la Maison Blanche. Vous tressaillez, mon ami, mais si vous ne partiez pas, c'est moi qui partirais. Vous m'estimez assez pour que je vous parle franchement. Cette solitude où nous vivons est dangereuse pour nous deux. Croyez-vous donc que je n'ai pas tout compris depuis longtemps? Le jour où vous m'avez engagé à déjeuner, je savais si bien que vous m'aimiez que je suis allé seul à la Maison Blanche, sans vouloir que Gertrude m'accompagnât. Qu'avais-je à craindre auprès de vous? Ce mot, qui mettait Madame Rose à des hauteurs où le désir ne pouvait atteindre, toucha M. de Francalin. Il prit la main de sa compagne et la porta à ses lèvres, avec un mouvement où la tendresse se mêlait au respect. « Peut-être alors aurais-je dû m'éloigner, ou vous prier de ne plus me voir, » ajouta Madame Rose. « Je n'en ai pas eu le courage. Là est mon tort. Il rend l'épreuve plus difficile. » « Mais enfin, ne puis-je rester près de vous ?» dit Georges. « Je vous verrai aussi peu souvent que vous le voudrez. »« Non, » reprit Madame Rose avec une force persuasive. « Si je vous ai bien jugé, je puis vous avouer sans rougir que je ne suis pas d'un caractère à braver un danger de tous les jours, isolé surtout comme je le suis. Les conditions de ma vie ne sauraient changer. » Elles sont telles que je ne dois plus vous voir. Le hasard nous a fait rencontrer aux abords d'un village. Une même jeunesse, un même isolement nous rapprochait. J'ai rempli votre vie plus peut-être qu'il n'aurait fallu. Séparons-nous afin qu'un jour, si Dieu le permet, nous puissions nous retrouver sans trouble. Le voulez-vous? Et m'aimez-vous assez pour me faire ce sacrifice? Croyez-vous donc que je vous oublie, étant loin de vous? Je ne sais si je le désire, mais je l'espère. Il aurait des loyautés à moi d'accepter toute une vie en échange des quelques heures que je puis vous donner, quand demain peut-être la dernière de ces heures aura sonné. Partez donc, allez à Beauvais, voyez cette jeune fille qu'on vous destine. Peut-être lui trouverez-vous des qualités que vous ne lui supposez pas. Et un moment de sagesse vous décidera à en faire la compagne de votre vie. C'est vous qui me le conseillez? Je fais plus, je vous le demande. Je ne veux pas qu'un jour vous me demandiez compte de votre jeunesse perdue. Vous savez, si je vous ai tendu la main, le jour pour la première fois vous m'êtes apparu pâle et défaillant. Si j'étais libre, je vous dirais: gardez-la, c'est la main d'une honnête femme. Mais je ne m'appartiens plus. Partez. » L'accent de cette voix, tout à la fois ferme et tremblante, pénétra le cœur de M. de Francalin. Il leva sur Madame Rose des yeux remplis de larmes, Que votre volonté soit faite, dit-il. Une heure après, Georges suivait lentement le bord de la rivière, comme un homme qui ne sait où il va. Sur le chemin de halage, il rencontra Canada, qui portait une paire d'avirons. Je les ai pris dans un canot qui s'en allait à la dérive et que j'ai amarré, dit le pêcheur en s'arrêtant. Je crois bien avoir vu ce canot hier du côté de Conflans. Il était attaché par un méchant bout de corde à un arbre. Je me suis dit, oh, voilà une corde qui cassera bien sûr. Et elle a cassé, alors je ramènerai le bateau à son propriétaire et ça me vaudra une pièce de 10 francs. Et le coup d'œil de Canada semblait dire, je connais la main qui a aidé la corde à casser. Je la tiens au bout de mon bras. Et il allait rire quand il s'arrêta devant le visage décomposé de M. de Francalin. « Mais qu'avez-vous ? » reprit-il. « Je pars, » répondit Georges. « J'ai déjà fait mes adieux à Madame Rose. »« Oh, c'est elle qu'il veut !» s'écria le pêcheur, qui comprit tout. M. de Francalin inclina la tête. « Dame, si elle le veut, faut obéir. Mais c'est dur. » « Ben, moi, j'avais comme ça l'espoir que vous pourriez bien vous marier ensemble quelques jours. » Georges tourna la tête du côté d'Herblay. « Sais-je seulement si je la reverrai jamais ?» dit-il. Canada frappait la terre à coups de sabot. « Oh, la vie est la vie, » reprit-il. « Faut pas se désespérer. Moi qui vous parle, je me suis vu 3 fois au fond de la rivière. Un certain soir surtout. » Par un temps à faire peur aux poissons, eh bien, me v'là sur mes pieds, bien vivant et bien grouillant. Demain est un fameux médecin, allez. Ah oui. Et comme Georges s'éloignait tristement, après lui avoir donné une poignée de main, Canada le retint par le bras et fouilla dans sa poche. J'ai là, monsieur Georges, un morceau de ruban que Madame Rose porté à son cou avec une espèce de médaille au bout, une médaille en argent, ma foi. Elle l'a laissé tomber hier, et je l'ai ramassé, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'idée de le lui rapporter demain. Elle aurait bien donné 20 francs, le voulez-vous ? Oh, mais si je le veux, s'écria Georges qui tira un louis de sa poche. Bon, j'imagine que Madame Rose m'en voudra pas, si elle sait que c'est vous qui l'avez, reprit-il. Ce sera comme un souvenir que vous aurez d'elle. Santé. Oh, il a cet odeur qui fait qu'on reconnaîtrait Madame Rose la nuit. Georges sauta sur le ruban et embrassa Canada. L'aime-t-il, mon Dieu, l'aime-t-il ? Dit le pêcheur en le regardant s'éloigner. Le soir même, M. de Francalin quittait la Maison Blanche et partait pour Paris.